Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour. Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma. Nous sommes le mercredi 19 mai. Bonjour Martin.
Bonjour, bonjour Vincent.
Alors nous n'avons toujours pas d'envoyé spécial à Cannes, donc on ne va pas trop en parler aujourd'hui. En revanche, on a un gros sommaire, notamment toi qui va faire un portrait.
Oui, alors pour moi aujourd'hui ça va être une spéciale Ridley Scott, puisque voilà, son dernier film est sorti en salle mercredi dernier, Robin des Bois. Donc je vais en profiter pour revenir un peu sur la filmo de Ridley Scott. Alors, j'étalerai ce parcours, ce portrait sur deux émissions, puisque aujourd'hui, je vais parler d'une partie de sa filmographie. Et puis, la semaine prochaine, je reviendrai sur les films dont je n'ai pas parlé.
Forcément, hein, parce que le monsieur a commencé avant les années 80, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il a commencé son premier film en 77 et puis il en sort encore aujourd'hui à 73 ans. Bonhomme est encore vert et il promet de continuer longtemps, je pense, dans le cinéma.
Oui, on l'a vu dans de nombreuses fêtes techno, tout le temps à Cannes. Absolument. Donc, moi, je parlerai de trois films, en revanche. Alors, celui de Raja Marie, Les Secrets, j'avais déjà passé un extrait de l'interview qu'elle nous avait accordée lors d'une conférence de presse, puisqu'elle était venue ici à Montpellier. Donc, je continuerai, mais cette fois-ci, à parler plus précisément de ce film. Ce sera en fin d'émission. 8 fois debout. Premier film français de, alors je ne sais plus comment on dit d'ailleurs, Xabi Molia, je crois. Voilà, que j'ai vu hier. C'est tout frais. Et puis Estomago de Marcos Jorge. Et c'est avec ça que je vais commencer l'émission Cinérama. Donc Estomago du Brésilien Marcos Jorge est présenté comme une fable sur le pouvoir, le sexe et la cuisine. Alors, il était annoncé aussi le 19 mai en sortie nationale, mais voilà pourtant déjà une semaine qu'il est projeté au Diagonale. Donc, Martin, toi, tu m'as dit que ça se faisait. Moi, c'est la première fois que je voyais ça, effectivement, qu'un film soit présent en projection pendant une semaine et non pas simplement une avant-première d'une soirée.
Bah en ce moment, en fait, au Diagonale, il y a le festival du film sud-américain, du cinéma sud-américain. Donc c'est peut-être dans le cadre de ce festival qu'ils ont eu un deal avec les distributeurs pour voir le film une semaine en avance. Mais donc il est sorti la semaine dernière et en fait il sort dans les autres salles aujourd'hui.
Aujourd'hui. Donc c'est un premier long métrage d'un réalisateur qui a fait ses études cinématographiques en Italie et qui sans doute a été marqué par La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Alors fable, conte, en règle générale, on peut le résumer en quelques mots et effectivement c'est l'histoire de Raimundo Nonato, un gars simplet qui par hasard découvre qu'il a un don pour la cuisine et qui va en user pour améliorer son quotidien, alors avoir une femme et aussi un meilleur sort en prison où la nourriture s'apparente à de la bouffe où l'apport en calories est calculé au détriment de la saveur. Alors les gens ne meurent pas de faim en prison, simplement ils se nourrissent. Le film s'inspire de la nouvelle Presos pelo Estomago, pris par l'estomac, écrite par Luza Silvestre, qui a d'ailleurs adapté le scénario en collaboration avec Marcos Jorge, qui raconte l'histoire d'un homme qui, en prison, donc réussit à se faire respecter par ses co-détenus en cuisinant pour eux. Alors seulement, c'était bien trop court pour un long métrage, d'où l'idée pour les deux scénaristes d'inventer une vie avant la prison. Alors, histoire de nous attacher à ce personnage qui, au départ, n'a rien pour lui. Alors c'est sur le registre de la comédie qu'Estomago avance doucement, oscillant entre deux univers qui sont donc les deux temps du récit. La cellule de la prison, où vivent six personnes et sur laquelle règne Bouillou, un de ces types pas fins mais qui préfèrent toujours un bon plat à la tambouille. Et puis la chance pour Raimundo qui va faire ses petits plats avec ce qu'il faut de romarin et de poivre ou de poudre de noix de coco. Et l'autre temps du récit qui s'enchevêtre avec le premier, c'est le monde de l'apprentissage de la cuisine et c'est donc presque de la vie pour Raimundo qui vient donc de la campagne et qui arrive en ville. Alors comme tout conte qui se respecte parce qu'on prend ses aises avec les vraisemblances, on y adhère ou pas. Mais Estomago n'a pas d'autre ambition que de nous communiquer l'amour de la cuisine, étant entendu que l'homme est le seul animal à cuisiner. Alors, il y a des personnages étonnants, comme cette prostituée dont Raimundo est amoureux. Il ne sait pas donc cuisiner, mais adore manger et s'en faire péter la panse, se moquant bien des régimes minceurs, entendu que ses clients aiment aussi les femmes opulentes. Alors, il y a des scènes clin d'œil à La Grande Bouffe, hein, donc ce grand film de Marco Ferreri qui fit scandale à sa sortie, avec ces bourgeois qui tentaient un suicide gastronomique où nourriture et sexe nous emmenaient jusqu'à l'orgie. On retrouve donc pareille relation dans Estomago sans que cela ait la même portée critique. Alors le réalisateur s'en tient à la fable, le personnage est benêt mais comprendra que son talent est une chance. L'interprétation est réussie, les dialogues sont savoureux, avec ce qu'il faut de culture culinaire, on apprendra notamment l'histoire du gorgonzola et comment préparer des fourmis. Et même si Estomago souffre de quelques longueurs, dues sans doute aux scènes ajoutées au scénario original, eh bien c'est un film appréciable. Alors sans doute un peu moins enthousiasmant que Kitchen Story de Fatih Akin, qui était sorti il y a à peine 2 mois, hein, qui était plutôt réussi et fantaisiste. Voilà, donc Estomago sorti il y a 1 semaine à Montpellier et seulement sortie nationale ce jour.
Eh bien, on va passer à Ridley Scott.
À la fin du XIIe siècle, le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, partit pour la croisade en Terre Sainte. Pendant son absence, le perfide prince Jean usurpa la couronne. Le peuple n'avait plus qu'un seul espoir, Robin des Bois, qui détroussait les riches pour nourrir les pauvres.
On raconte des tas de légendes et d'histoires à dormir debout sur Robin des Bois, toutes différentes d'ailleurs. Eh bien, nous autres, nous avons notre version. Voilà ce qui est réellement arrivé dans la forêt de Sherwood.
Voilà, la semaine dernière est sortie dans nos salles une nouvelle variation autour de la légende de Robin des Bois, le Lucky Luke du tir à l'arc, qui volait aux riches pour renflouer les pauvres. Alors après de nombreuses apparitions au cinéma, c'est devant la caméra de Ridley Scott que le célèbre personnage se retrouve aujourd'hui. Et c'est l'occasion de revenir un petit peu sur la carrière de ce cinéaste et sur sa filmographie, qui, malgré une poignée de films incontournables, n'est finalement pas si connu que ça. Et pour cause, puisque Ridley Scott est un bonhomme assez difficile à cerner. Il s'est essayé tout au long de son œuvre à de nombreux genres différents et en conséquence, il n'est pas facile de définir un style Ridley Scott. Alors pour essayer de comprendre un peu mieux ce réalisateur, né en 1937, il faut revenir à ses débuts. Donc Ridley Scott a commencé par étudier le dessin et le design dans plusieurs établissements, dont la Royal College of Arts de Londres, l'une des plus prestigieuses écoles d'art au monde. Donc après ses études, il décroche un boulot de décorateur à la BBC. Il travaille sur plusieurs séries de la chaîne. C'est lui, par exemple, qui aurait dû concevoir l'aspect des fameux Daleks, les robots extraterrestres de la série Doctor Who. Et quand on voit ce qu'ils sont devenus entre les mains de celui qui s'en est finalement occupé, eh bien on ne peut que regretter que ce ne soit pas Ridley Scott qui s'y soit collé. Donc après un certain temps, il est formé à la réalisation et il va signer plusieurs épisodes de différentes séries et émissions. En 1965, il réalise aussi un premier court-métrage d'une demi-heure dans lequel on suit un jeune garçon interprété par son propre frère, Tony Scott, qui fait l'école buissonnière pour aller se promener en vélo. Donc une ode à la liberté et au mouvement qui préfigure d'une certaine façon certains des thèmes qu'on retrouvera dans ses futurs films. Alors en 1968, Ridley et son frère Tony fondent une boîte de production spécialisée dans le clip publicitaire, une boîte au sein de laquelle ils feront leurs armes pendant de nombreuses années, réalisant en 10 ans environ 2000 spots de pub. Donc c'est en technicien confirmé que Ridley Scott va se lancer dans l'aventure d'un premier long métrage. En 1977, il adapte une nouvelle de Joseph Conrad, Le Duel, qui raconte comment 2 soldats de l'armée napoléonienne se rencontrent plusieurs fois au fil des années et s'affrontent en duel pour une raison qui n'a pas vraiment d'importance. Donc profondément influencé par le Barry Lyndon de son compatriote Stanley Kubrick, qui était sorti 2 ans plus tôt, et dans lequel les duels ont aussi un rôle central, Ridley Scott soigne particulièrement la photographie et la direction artistique de son film. Alors si l'histoire n'est pas extraordinairement élaborée, elle est quand même parfaitement servie par les 2 interprètes principaux, Harvey Keitel et Keith Carradine.
Votre seule fonction est de m'accabler. Je me trompe ou non? Vous avez choisi de venir me relancer dans le salon d'une dame pour qui j'éprouve la plus profonde...
Écoutez, je respecte vos ineffables sentiments. Mais soyez assuré que je n'ai guère choisi de vous courir après.
Vous m'avez insulté, Dubert. Vous m'avez insulté, gravement.
Erreur. À force de patience, j'ai réussi à ne pas le faire.
Je réclame des excuses immédiatement.
Oh, écoutez, tout cela est ridicule.
Vous trouvez cela ridicule? Le caniche du général. Acceptez-vous de vous battre?
Je ne vois aucune raison pour que nous nous battions.
Quelle raison vous faut-il?
Que je vous crache au visage.
Que je tranche une fraction de votre postérieur, ou bien craignez-vous que cela ne soit trop ridicule? Comment pensez-vous rejoindre votre général à présent? En sautant par la fenêtre?
Je pense que vous vous conduisez comme un dément.
Dégainez, qu'attendez-vous? Dégainez, vous entendez? Ou par Dieu, je vous pourchasserai comme une volaille.
Je ne vous donnerai pas cette peine, car je me ferai une joie de vous affronter à la première occasion.
Battez-vous, tout de suite!
Pour le moment, je suis de service, et vous êtes aux arrêts!
Allez!
Pour duel, espèce de butin!
Allez! Battez-vous tout de suite!
Où ça?
Dans le jardin.
Nous n'avons pas de témoins.
Vous voulez des témoins? Je vais vous en trouver. Vieillard, tiens-toi là. Et regarde-moi.
Et c'est parti donc pour de nombreux duels qui vont se poursuivre tout au long des années à chaque fois que les deux personnages se retrouvent. Donc les duellistes est récompensé au Festival de Cannes 1977 du prix du jury de la première œuvre, en fait l'ancêtre de l'actuelle Caméra d'Or. Et ce premier film permet à Ridley Scott de faire parler de lui de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui tombe plutôt bien puisque Ronald Chussett et Dan O'Bannon, qui sont deux scénaristes américains, ont rédigé un scénario de science-fiction horrifique et ont un peu de mal à trouver un réalisateur pour leur projet. Quand le script d'Alien arrive entre les mains de Ridley Scott, plusieurs autres metteurs en scène ont déjà été pressentis pour s'occuper de la mise en image de ce survival spatial, hanté par un monstre conçu par le fameux plasticien suisse Hans Ruedi Giger. Et Dan O'Bannon a pensé pendant un certain temps le réaliser lui-même. Il l'a proposé à Walter Hill, à Robert Aldrich, qui ont décliné l'offre. Et impressionné par les qualités visuelles des duellistes, O'Bannon se tourne alors vers Ridley Scott, qui accepte rapidement de se mettre aux commandes.
Dis donc, je te signale que c'est ma place, s'il te plaît.
Oui, bien sûr.
Ouais, merci. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe encore?
Bien. Je pense que vous avez dû comprendre qu'on n'est pas encore arrivé. On est juste à mi-chemin.
Quoi?
Maman a interrompu le cours de notre voyage.
Pourquoi?
Elle est programmée pour le faire dans certaines conditions exceptionnelles, c'est ce qui s'est passé.
Et quoi, par exemple?
Il me semble qu'elle ait intercepté une émission d'origine inconnue. Elle nous a réveillés pour qu'on vérifie.
Une émission extérieure?
Ouais.
Mais quel genre d'émission?
C'est un signal sonore qui se répète à intervalles réguliers de 12 secondes.
Un SOS?
J'en sais rien.
Humain?
Inconnu.
Bon, et alors?
Nous sommes obligés par le paragraphe
B2. Non, mais je sais pas si vous savez, mais c'est un engin commercial, c'est pas un vaisseau de sauvetage.
C'est vrai.
Et c'est pas dans mon contrat de faire ce genre de boulot. Si on parlait un peu de pognon, si vous êtes disposé à me payer, moi je demande pas mieux que de vous rendre service.
Par cœur à raison.
Et la question de répartition des primes, vous avez
Bien sûr, je suis désolé. Attendez une minute, est-ce que je peux parler?
Parlons du problème des primes.
Il y a une clause dans le contrat qui établit de façon claire que toute transmission systématisée indiquant la possibilité d'une origine intelligente doit faire l'objet d'une recherche.
Ouais, mais on sait pas si c'est intelligent.
Je veux rentrer et être payé.
Parker, tu veux écouter une minute? La peine est la suppression des primes de fin de voyage. Pas de primes.
Avec une enveloppe de 11 millions de dollars, concédée par la 20th Century Fox, Ridley Scott donne vie aux visions géniales de Giger et à l'histoire inventée par Chussett et O'Bannon. Alors la suite, tout le monde la connaît. Avec moins de 100 copies sur le territoire américain, Alien récolte 3,5 millions de dollars en un week-end et marque le début d'une des sagas les plus passionnantes du 7e art. Alors visuellement, le film est une réussite et ses décors sont salués aux Oscars, ainsi que ses effets spéciaux, qui valent d'ailleurs à Ridley Scott son premier Oscar. La créature de l'alien s'inscrit durablement dans l'imaginaire des spectateurs. Encore aujourd'hui, le monstre n'a pas beaucoup de concurrents capables de rivaliser avec son pouvoir de répulsion et de terreur. Alors pour la petite histoire, Ridley Scott a proposé à la production plusieurs scènes qui n'étaient pas dans le scénario. Et dans l'une d'elles, le réalisateur prévoyait de faire mourir Ripley à la fin du film sous les crocs du monstre. Une fin refusée, bien évidemment, par les producteurs. Et pour une fois, ce veto des financiers déboucha sur une bonne chose, puisqu'il permit à trois grands réalisateurs de décliner cet univers et de donner naissance à une tétralogie particulièrement pertinente.
Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici Ripley, dernier survivant du Nostromo. Terminé.
Alors après le très gros succès d'Alien, Ridley Scott se lance dans un autre projet de science-fiction bien plus ambitieux, l'adaptation du classique de Frank Herbert, Dune. Alors le roman avait déjà failli être adapté au milieu des années 70 par Alejandro Jodorowsky, qui prévoyait de faire un film de 10 heures avec Salvador Dali dans le rôle de l'empereur. Et après quelques mois de pré-production, pendant lesquels presque un quart du budget prévu est dépensé, eh bien le projet prend l'eau et les droits du roman sont rachetés par Dino De Laurentiis, qui engage Ridley Scott pour le réaliser. Alors Scott travaille un an sur le film, il retrouve Giger déjà à l'œuvre sur le film de Jodorowsky et envisage de découper l'énorme roman de Frank Herbert en 2 films. Alors malheureusement, alors que le long métrage commence à prendre forme, le frère aîné de Ridley Scott décède d'un cancer, un choc pour le réalisateur qui brutalement prend la mesure du travail qui reste à accomplir et ne se voit plus consacrer plusieurs années à l'adaptation de Dune. Alors il abandonne le scénario à Dino De Laurentiis, un scénario qui atterrira quelques années plus tard entre les mains de David Lynch, et il se tourne vers un projet qui lui semble de moindre envergure, Blade Runner.
Thank you.
Voilà un extrait de la bande originale signée Vangelis Papathanassiou qui nous plonge bien dans cet univers de Blade Runner. Alors raconter la genèse de ce film suffirait sans doute à occuper une émission entière. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'entrer trop dans les détails. Pour plus d'infos, je vous renvoie au Making of Dangerous Days de Charles de Lozerica que vous pouvez trouver en supplément DVD sur certaines éditions du film et qui retrace en deux heures, je crois, toute l'histoire de ce tournage. Alors Blade Runner, c'est une adaptation du roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » de Philip K. Dick, un écrivain du deuxième âge d'or de la science-fiction américaine dont l'œuvre a souvent été transposée au cinéma, alors, pour le meilleur avec Minority Report, Total Recall ou Scanner Darkly, comme pour le pire avec Paycheck ou Next. Donc pour ce troisième long métrage, mes premiers films dans un système américain, Ridley Scott va se surpasser et va pousser son équipe à faire de même. Avec une pré-production étalée sur 10 mois, d'énormes décors construits en extérieur, un tournage en grande partie de nuit sous une pluie artificielle battante, des dépassements de budget et de planning, une ambiance qui se dégrade progressivement entre le réalisateur britannique et son équipe américaine, eh bien Blade Runner a été un tournage particulièrement mouvementé, mais le jeu en vaut définitivement la chandelle puisque Ridley Scott accouche d'un authentique chef-d'œuvre entre dystopie dans la grande tradition de la SF des années 60-70 et film noir. Donc un long métrage visionnaire, sombre, hypnotique qui laisse une trace indélébile sur la rétine. Alors même si le récit s'éloigne largement de celui imaginé par Dick, Blade Runner s'avère finalement complémentaire de l'œuvre dont il s'inspire et soulève de nombreuses questions sur la nature de l'humain, sur le contrôle et sur la mort, des thématiques qui viennent faire écho au deuil vécu à l'époque par le réalisateur.
J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir.
À sa sortie, Blade Runner reçoit un accueil plutôt froid de la part du public, malgré l'investissement engagé. Malgré la présence d'Harrison Ford au générique, devenu extrêmement populaire après ses performances dans Star Wars et Les Aventuriers de l'Arche Perdue, malgré une publicité importante et malgré un nombre de copies qui passe de 90 et des brouettes pour Alien à presque 1300, le film est un échec financier qui parvient difficilement à se rentabiliser et il faudra attendre son exploitation en vidéo pour qu'il trouve son public et qu'il se taille enfin son statut de film culte. Alors on va faire une petite pause après ce grand film, ce chef-d'œuvre de Ridley Scott et je reviendrai tout à l'heure pour vous parler un peu de la suite de cette filmographie.
À noter que sur les DVD, il y a une version Director's Cut, je crois, hein. Parce qu'il y avait une version producteur et puis une version réalisateur. Donc.
En fait, le film a connu 5 versions, je crois, en tout différentes. Une première version qui a été charcutée par les producteurs qui ont ajouté une voix off narrative pour essayer de faire comprendre aux spectateurs qu'est-ce qui se passe. Et surtout en rajoutant une fin, une happy end. Qui n'était pas du tout prévu dans le film original, une happy end qui, d'ailleurs pour la petite histoire, Ridley Scott est allé trouver Stanley Kubrick, il a récupéré des rushs de Shining, de la séquence d'introduction de Shining, où il y a ce survol en hélicoptère
des au-dessus montagnes,
de la, voilà, ouais. Et il a récupéré ces images-là de prise en hélicoptère tournée par une équipe pour Stanley Kubrick et qu'il l'a intégré donc, dans cette fin alternative. Après, il y a eu la version Director's Cut, un peu plus tard, où il a viré justement la voix off, la happy end, et il a rajouté quelques images. Et enfin, assez récemment, il y a en 2008, est sorti en salle et donc en DVD, une version Final Cut, où on a redécouvert des scènes qui avaient été coupées dès le départ et qui n'avaient jamais été réintégrées au film. Donc voilà, il y a 5 versions au moins de Blade Runner, qui sont d'ailleurs disponibles en DVD dans des coffrets qui reprennent divers. Chacune des versions. Mais c'est vrai que le tournage et ensuite la distribution a été particulièrement compliqué sur ce film. Ouais.
Mais c'est bizarre, hein, quand on se retrouve avec un final cut, un director's cut, quelle est finalement celle que retient le réalisateur dans ces cas-là?
Je pense que le final cut, c'est un peu une sorte de version augmentée. Peut-être le director's cut, c'était vraiment celle qu'il voulait, lui, au moment de la sortie du film. En effet, il a dû couper parce que son film était trop long. Je crois que la copie de travail arrivait jusqu'à 4 heures de métrage. Et il a dû couper certaines scènes qu'il n'a pas forcément réintégrées au moment de faire sa director's cut et qu'il a réintégrées après en dans le final cut.
Ouais. Pour rester dans les termes, ça fait comme la version Redux de Apocalypse Now.
C'est un peu ça, voilà. Apocalypse Now, il avait
qu'on a d'abord découvert dans une version courte et ensuite qui est ressorti, c'était il y a 2 ans d'ailleurs, avec une projection ici à Montpellier en version 3 heures et des bananes.
Et quelques, ouais.
Eh bien, donc, on te retrouve dans quelques instants après cette chronique sur 8 fois debout, premier film de Xabi Molia.
En atteignant le but, on a manqué tout le reste.
Pardon ?
C'est un proverbe zen. C'est un peu ambigu. Je veux dire, pour un entretien, je suis pas sûr que ça donne l'image du type qui veut réussir.
Ouais. Mon cousin aussi m'a donné un proverbe pour les entretiens. 7 fois à terre, 8 fois debout.
Ah, ça fait la fille qui veut réussir.
Ça fait aussi la fille qui se casse souvent la gueule.
Cet extrait mêlé à cette chanson mi-joyeuse, mi-voix chevrotante donne le ton de 8 fois debout, comme elle dit, mélancolique sur le travail ou plus précisément sur la difficulté de se faire admettre dans ce monde du travail, avoir un boulot, donc un salaire. Et pour Elsa, garder son appartement et pouvoir y recevoir son fils dont elle a la garde alternée, mais seulement un week-end sur deux et jamais la semaine, alors donc c'est assez rare pour une femme, mais on apprend que sans boulot, sans loyer garanti, eh bien elle a des droits restreints et gare à elle si son ex-mari s'aperçoit qu'elle n'a plus où dormir. Alors pour Mathieu, son voisin de palier, dans la même mouise, il s'agit aussi de trouver un boulot. Alors nous verrons les deux trentenaires passer des entretiens, s'y préparer, stresser, et nous les verrons aussi accepter n'importe quel petit boulot pour gagner le pain quotidien. Nous avons là deux magnifiques perdants qui vont se débattre tout au long de ce premier long métrage de Xabi Molia, écrivain avant tout et prof de cinéma à l'université de Poitiers. Voilà, j'allais dire Montpellier, mais non, c'est Poitiers. Un premier film, alors c'est toujours un exercice délicat, il y a tout ce qu'on veut dire, comment on le traduit à l'image et avec qui on veut le faire. Alors on ne peut pas dire que ce film soit sans défaut, mais dans l'ensemble, 8 fois debout n'est pas trop bancal. D'abord, alors les acteurs, Molia a choisi Julie Gayet, que j'ai vu aussi crédité en tant que coproductrice. Elle tient son rôle de femme fragile à merveille, une femme qui cherche par tous les moyens donc à se faire admettre dans le monde du travail, car bien sans travail, elle n'a pas sa place et la confiance n'est pas là non plus. Alors on la voit repliée, absente de son rôle de mère, notamment lors d'un repas d'anniversaire où la belle-mère, la nouvelle compagne de son ex-mari, semble avoir plus de prise sur son fils. Alors chaque événement la pousse à prendre des décisions toujours plus délicates, avec en point de mire une descente bien plus lourde vers la précarité et la marginalité. Le deuxième personnage qui cherche son emploi et sa place, c'est Denis Podalydès, un doux rêveur qui trafique son CV en indiquant qu'un de ses loisirs favoris, eh bien, c'est le tir à l'arc, au point d'y croire et de s'y mettre vraiment au tir à l'arc et d'y consacrer plus de temps qu'à la recherche d'un salaire. Alors les dialogues sont savoureux et nous éloignent du drame social. Il n'est pas question de pleurer ici, mais de prendre de la distance avec le rire, sans que ce soit toutefois la poilade. Alors là où ça coince, c'est peut-être dans le rythme et dans l'ajout de séquences qui auraient pu disparaître au montage. Là, on parlait de la version director's cut ou version producteur là. Pour le coup, avec le cinéma français, on a bien souvent, voire quasi majoritairement, la version du réalisateur. Alors quelques longueurs plus loin, 8 fois debout se laisse tout de même apprécier comme un film léger dans sa forme sur un sujet qui pourrait être lourd, la valeur du travail dans notre société et la représentation sociale du chômeur.
Et les études de lettres, vous êtes allé jusqu'où?
Je dirais à la fin du 19e siècle, les symbolistes.
Non, non, mais je veux dire, vous avez un dog?
Si ça arrête des détails comme ça, les gens. Ça s'est bien passé, ton entretien?
Mais je me fais pas trop de soucis. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2004? Ça n'apparaît nulle part sur votre CV.
J'ai beaucoup lu. J'avais du temps pour réfléchir. Je voulais être sûr de m'engager dans la vie active pour les bonnes raisons, en fait.
Ça, qu'est-ce que tu veux là?
Je fais des sondages pour une campagne publicitaire. Bon, pas super intéressant.
Il arrive déjà l'heure de la pause.
Ah mais non, mais...
Tu trouves mon boulot là, Mathieu, hein?
Tu reviens aujourd'hui?
Ouais. Si je saute là, tu pourrais essayer de me rattraper?
Ouais. Putain, non, franchement, tu fais mal.
Bonne nuit. Pour moi, c'est pas le moment.
Non, mais pour moi non plus, en fait.
Ah bon?
Je suis maintenant convaincu que c'est vraiment bénéfique de travailler.
Ah oui, le personnage de...
Et les études de lettres?
Les études de lettres, il me semble qu'il en était déjà question au début. Et donc, le personnage de Denis Podalydès passe deux entretiens qui sont vraiment à mourir de rire, puisqu'il expose tous ses doutes sur le monde du travail, ce qui fait qu'il ne part pas vraiment gagnant pour, pour les postes qu'il convoite. Et tous les boulots qu'on voit dans le film sont absolument déprimants. Voilà. Mais sinon, c'est une comédie. Comédie, certes, qu'est-ce que j'ai dit, enfin, pas dramatique, mais mélancolique. Voilà. À la française, donc. Et c'est projeté au Diagonale pour cette semaine, parce que c'est un film qui, par ailleurs, est sorti au mois d'avril, voilà, et qui continue sa petite carrière tranquillement.
Alors, on va passer à quelque chose de très différent des bureaux du Pôle emploi, puisque après les deux réussites artistiques totales que constituaient les deux précédents films de Ridley Scott, qui correspondent aussi à des œuvres assez sombres, assez pessimistes, le réalisateur délaisse la science-fiction pour s'essayer à un nouveau genre, l'héroïque fantasy. Et il fait un premier pas vers un certain assagissement en termes d'ambition artistique. Alors, dans un pays merveilleux où règnent la paix et le bonheur, le terrible Darkness, seigneur des ténèbres, décide de prendre le pouvoir et de tuer les deux licornes garantes de l'harmonie qui règne en ces lieux. Seuls deux jeunes gens, une princesse et un jeune faune, interprété par un Tom Cruise adolescent et facétieux, aidé de lutins, de fées et de tout un bestiaire de créatures plus mignonnes les unes que les autres, vont se dresser face à Darkness. Alors devant légende, on est en droit de se demander où est donc passé le réalisateur d'Alien et de Blade Runner. Si la photographie reste magnifique et que l'univers mis en place préfigure par certains aspects celui qui fera la renommée internationale de Peter Jackson et de sa trilogie, le récit ressemble surtout à celui d'un dessin animé de chez Walt Disney.
Jack, apprends-moi le lapin comme tu l'avais promis.
Le lapin? C'est plus dur que le pinson.
Laisse-moi essayer. J'apprends assez vite. D'ailleurs, mon père me trouve brillante. Regarde comme j'y arrive bien. Que je t'éblouisse par mon savoir.
Il me faut plus que du savoir pour que je sois éblouie, Lily.
Jack, apprends-moi le lapin.
Pas aujourd'hui.
Et non, puisque Tom Cruise n'apprendra,
c'est énigmatique quand même, quoi.
N'apprendra pas le lapin. En fait, Tom Cruise parle aux animaux. C'est un jeune faune habillé en Peter Pan qui a une relation privilégiée avec la nature. Un peu comme François Borloo, non c'est... Et qui donc parle au lapin. Et dans cette scène, ils sont assis dans un champ de fleurs. Et Tom Cruise serre amoureusement contre lui un renard. Enfin, c'est une scène assez magique. Donc voilà, bien loin de la force dramatique, mais aussi visuelle d'un Dark Crystal, qui était sorti 3 ans auparavant, Légende vaut surtout pour ses décors et pour la performance de Tim Curry. Donc Tim Curry, célèbre interprète du Dr Frankenfurther dans le Rocky Horror Picture Show. Tim Curry qui interprète le rôle de Darkness et qui, malgré un maquillage superbe mais particulièrement contraignant signé Rob Bottin, eh bien parvient à donner à son personnage une ampleur et un souffle qui contrebalance un peu le côté naïf du reste du long métrage.
Je veux une simple conversation.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous m'avez volé mes rêves les plus fous.
Changer est dans la nature. Les beaux rêves d'enfance sont les regrets de la maturité. Les rêves sont ma spécialité. À travers les rêves, je manœuvre l'humanité. Mon rêve à moi c'est de vivre une éternité avec vous. Je vous fais l'offrande de cette rose, princesse. Mon cœur, mon âme, mon amour.
Amour ?
Avec un budget supérieur à celui de Blade Runner, Legend fait à sa sortie moins d'entrées et constitue le deuxième échec commercial consécutif pour Ridley Scott. Donc après ces deux expériences, sa carrière va connaître un tournant. Le réalisateur va un peu laisser de côté ses ambitions visuelles et narratives pour signer deux films policiers mineurs qui connaîtront un succès mitigé avant de rebondir grâce à Thelma et Louise. Mais bon, il est temps de bouleverser un petit peu la chronologie, de faire le point. Puisqu'en quatre films, on peut déjà voir se dégager une certaine tendance dans l'œuvre de Ridley Scott. Dès son premier film, son goût pour l'histoire et pour les films en costume est assez flagrant, et selon Métrage matriciel, est en fait le premier d'une série que le réalisateur va enrichir au cours des années. Ensuite, avec Alien et Blade Runner, qui ont quand même une place assez particulière dans sa filmographie, Scott se penche sur des figures héroïques dépassées par les événements, des sortes de héros par accident, qui sont contraints de se surpasser par les situations extraordinaires dans lesquelles ils sont plongés. Et enfin, avec Legend, c'est un certain amour du mythe, de l'épique et de l'aventure qu'on voit apparaître de façon évidente. Alors ces thématiques, Ridley Scott va les explorer à travers plusieurs films d'envergure, des grandes aventures historiques qui peuvent facilement être groupées sous une bannière commune. En 1992, pour le 500e de la découverte de l'Amérique, Scott accepte de réaliser 1492, Christophe Colomb, avec Gérard Depardieu dans le rôle titre, une fresque qui retrace les voyages de Colomb et de son cheminement en tant qu'homme face à cette ouverture du monde, à cette découverte du nouveau monde. Alors le film est reçu assez tiennement par la critique et par le public et 1492 sera à nouveau suivi par deux autres films moins audacieux. Ce n'est qu'en 2000 que Ridley Scott va enfin rencontrer un très grand succès avec une reconstitution historique, Gladiator, qui remet au goût du jour le péplum et qui révèle une nouvelle star hollywoodienne en la personne de Russell Crowe. Donc ce film nous raconte l'histoire d'un général romain dont la famille est assassinée par le fils de l'empereur, jaloux du respect et de l'admiration que son père porte aux soldats. Donc trahi, dépossédé de ses proches et de son grade, il va aller chercher sa vengeance dans l'arène en tant que gladiateur et défier le tyran.
Ta renommée est bien méritée, l'Espagnol. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de gladiateur qui t'égale. Quant à ce jeune homme, il dit que tu es la réincarnation d'Hector. Où est Hercule ? Mais c'est au héros lui-même de se présenter. Quel est ton nom ? Tu as bien un nom tout de même.
Mon nom est Gladiateur.
Comment oses-tu me tourner le dos ? Esclave ! Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes.
Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des Légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurel, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre.
Pour ce film, Ridley Scott signe des scènes de bataille et d'affrontements particulièrement spectaculaires, comme cette introduction où on voit la légion romaine affronter les barbares germains dans une forêt. Et coup de peau pour le réalisateur, son décor naturel est promis à la déforestation. Il va donc se proposer, pour le réduire, lui-même en cendres. Donc une séquence brutale, virtuose, qui ouvre un film d'aventure plutôt réussi. Les 100 millions de dollars de budget permettent également à Scott de faire construire une réplique au 1/3 du Colisée de Rome et de faire fabriquer la plupart des accessoires par son équipe. Donc à sa sortie, Gladiator est très bien reçu et ce long métrage va participer à la renaissance des grands films épiques en costume comme Troie, comme Alexandre 300 et plus récemment Le Choc des Titans. Alors quelques années plus tard, le réalisateur récidive dans le genre avec Kingdom of Heaven, un autre film historique dont l'histoire se déroule pendant les croisades. Donc un jeune forgeron découvre qu'il est le fils d'un chevalier et s'embarque pour la Terre Sainte, où il rencontre son destin et devient le sauveur du peuple de Jérusalem. Donc si encore une fois Ridley Scott se surpasse avec la qualité et la précision de sa reconstitution, ainsi qu'avec sa mise en scène des séquences de bataille, le film ne rencontre pas son public, la faute sans doute à une histoire un peu trop classique et à un Orlando Bloom moins charismatique que Russell Crowe. Enfin, la semaine dernière sortait Robin des Bois, donc une nouvelle incursion du réalisateur dans le film d'aventure épique. L'histoire prolonge en quelque sorte celle de Kingdom of Heaven qui se terminait sur le départ de Richard Cœur de Lion pour les croisades. Dans Robin des Bois, Richard revient de Terre Sainte et parmi ses soldats, il y a un archer téméraire, Robin Longstride, retourne en Angleterre pour découvrir que le royaume part à volo sous la cruelle régence de Jean Sans Terre, le frère de Richard. Alors, dans cette nouvelle version de la fable, Ridley Scott décide d'inventer de toutes pièces un contexte et une histoire à ce personnage de l'imaginaire britannique. L'occasion de revenir sur la période troublée du règne du prince Jean et de mêler la légende à une certaine véracité historique. Donc encore une fois, Scott accorde beaucoup d'attention à l'esthétique de son film, aux chorégraphies des batailles, mais aussi à ses personnages qu'il réussit à rendre attachants ou détestables sans avoir trop recours à l'ostentation. Donc si ce film est avant tout un long métrage d'aventure romanesque dans lequel la brutalité sanglante qu'on pouvait voir dans Gladiator ou dans Kingdom of Heaven a été réduite à sa plus simple expression pour convenir à un public familial, le générique de fin est assez intéressant puisqu'il rappelle à sa façon que l'œuvre aurait pu être beaucoup plus violente et qu'il faut sans doute s'attendre à voir apparaître un jour un montage du film différent, plus adulte et moins consensuel. En fait, cette idée des montages director's cut, c'est pas uniquement sur Blade Runner puisqu'il y en a eu un autre sur Alien, même si c'était un peu un coup marketing et que Ridley Scott lui-même considérait son montage original comme quasi parfait. Il y en a eu un autre sur Kingdom of Heaven qui s'est vu rajouter 20 minutes, je crois. Et donc, c'est également le cas Moi, je prédis que ce sera sans doute le cas puisque ce générique présente des images du film, certaines images du film, mais également certaines images qu'on ne voit pas dans le film et qui sont pour le coup beaucoup plus sanglantes. On écoute un petit extrait de la bande-annonce.
Ton père était un visionnaire. Qu'avait-il vu ? Que les rois ont besoin de leurs sujets. Une idée dangereuse. Vous êtes le digne fils de votre père.
Les lois de ce pays asservissent le peuple à son roi. Pour le crime d'incitation au désordre, j'ordonne qu'il soit tenu pour un hors-la-loi !
Es-tu prêt à devenir qui tu es ?
Oui.
Ce que nous demandons, c'est la liberté, par décret de loi.
Donc avec ces quatre films, 1492, Gladiator, Kingdom of Heaven, Robin des Bois, également son premier film, Les Duellistes, on voit se dégager des tendances dans l'œuvre de Ridley Scott. D'abord un perfectionnisme formel, un souci du détail dans les décors, costumes, accessoires, ainsi que dans l'image, avec une photographie toujours très élaborée et une mise en scène qui dose assez finement les scènes d'action et les scènes plus calmes, qui nous permettent souvent d'explorer l'univers reconstitué. Et ensuite se dégage un amour de l'aventure, de la fable et du mélange entre histoire et légende. Alors on peut trouver des échos à cet intérêt particulier dans une certaine tradition littéraire britannique, où les chroniques historiques ont souvent été utilisées pour donner naissance à des récits fondés sur des vérités historiques, mais imprégnés par la sensibilité des auteurs et par leur perception singulière des personnages. Alors c'est en particulier le cas des tragédies et des drames historiques de Shakespeare, qu'on verrait d'ailleurs assez bien adaptés par Scott au cinéma. Alors la semaine prochaine, je reviendrai rapidement sur les autres films de Ridley Scott dont je n'ai pas parlé, des films plutôt intimistes qui sont moins flamboyants que ceux que j'ai abordés aujourd'hui et qui sont peut-être aussi un peu plus politiques. Donc d'ici là, si vous n'avez rien contre les films de KPDP, si vous avez un petit coup de blues ou si vous avez un après-midi à glander, je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir en salle Robin des Bois qui, s'il ne révolutionne pas grand-chose, c'est quand même un très bon film de divertissement, largement préférable au Iron Man 2 et autres Choc des Titans avec lequel il partage l'affiche.
Et voilà, et donc fait par un papy de 74 ans.
Tout à fait, et qui est bien rythmé, plein d'action et plein d'aventures.
On quitte un peu les millions de dollars américains, des studios américains, pour retrouver le cinéma d'art et d'essai, enfin, avec ce film, deuxième film, hein, de Raja Amari, Les Secrets, qui sort aujourd'hui. Un film avec Afzia Erzi, qui était le personnage de la graine Elmuleh. Alors, je raconte vite fait l'histoire. Aïcha, Radia et leur mère vivent à l'écart du monde dans une maison à l'abandon dans laquelle elles ont déjà travaillé comme domestiques. Et leur quotidien vacille le jour où un jeune couple vient s'installer dans cette maison. Les trois femmes cachent leur existence aux nouveaux venus de peur d'attirer l'attention sur leur situation et d'être chassées. Aïcha, surprotégée par sa sœur et sa mère, va saisir cette intrusion pour s'émanciper. Alors on écoute Raja Amari, la réalisatrice qui s'explique sur l'origine de Les Secrets.
Alors en fait, moi j'ai commencé à écrire cette histoire en partant d'un personnage, qui est le personnage de Aïcha, hein, le personnage principal, dans une évolution particulière, puis l'histoire, le parcours de ce personnage m'a emmené vers cette histoire et mais je ne suis pas partie d'un sujet ou d'un fait divers c'est peut-être un ensemble de choses. Que j'ai vu, que j'ai lu, et puis un sujet qui m'intéressait aussi. Mais pour moi, c'était important de partir d'un personnage dans son parcours, dans son évolution et dans une sorte de recherche d'identité, en fait. C'est peut-être ça le thème principal qui m'a intéressé. Alors, ce qui le caractérise, c'est qu'il a vécu à l'écart du monde. Je voulais en fait voir un peu comment l'expérience du monde extérieur et aussi un certain appel de la féminité, du désir, interfère avec cet enfermement. Et donc c'était ça un peu le point de départ de la caractérisation en tout cas de ce personnage-là. Et puis voilà, ça ce souci-là rejoint peut-être des thèmes qui m'intéressent, sur lesquels j'ai déjà travaillé dans mon précédent film, par exemple Satin Rouge, où c'est vrai que la recherche de féminité était au cœur du film, mais peut-être dans celui-là ça arrive dans un parcours inverse. Dans Satin Rouge, en fait, c'est une femme qui essaye de retrouver une certaine jeunesse, alors que là, en fait, c'est une fille qui a été maintenue dans l'enfance, qui essaye de retrouver, de chercher sa féminité et devenir femme. Donc, c'est ce parcours-là, en tout cas, du personnage qui m'intéressait.
Alors, Raja Amari présente Les Secrets comme un conte noir. Alors, en effet, ces femmes cachées à l'insu des occupants paraissent complètement irréelles, de même que le parcours de Aïcha.
Cette idée-là du conte m'est venue du personnage, en fait. Je me suis dit, cette fille peut se représenter un peu le monde comme un conte de fées, vu son état et sa relation avec l'enfance, elle est encore dedans. Et cet imaginaire-là découle de ça. Mais en même temps, je voulais que ce personnage aussi essaye d'en sortir. Et donc l'enfermement, c'est vrai que la maison l'accentue, on est en huis clos. En fait, quand j'ai commencé à chercher le lieu où pouvait se tourner cette histoire, j'ai très vite trouvé cette maison et tout de suite j'ai senti qu'elle avait une atmosphère, une épaisseur. Il y a quelque chose qui était très intéressant pour le film et j'ai réécrit un peu en fonction aussi du lieu. Et ce lieu-là me permettait, de raconter aussi quelque chose d'intemporel, de détacher, d'isoler. Et finalement, moi, ça m'intéressait aussi de raconter quelque chose, une histoire qui peut aussi se passer n'importe où et ne pas m'attacher uniquement au contexte social de la Tunisie et de peut-être m'éloigner un peu de la stricte représentation de la réalité et d'affirmer quelque part un droit à la fiction, et de faire quelque chose d'un peu plus universel et de plus ouvert.
Aïcha, on fait ça comment ?
Alors il n'empêche, le film est ancré en Tunisie. Alors même si la réalisatrice a voulu évacuer toute étude sociologique, eh bien ces femmes vivent dans la tradition. Alors Raja Amari nous explique même que ça concerne plus particulièrement les femmes tunisiennes, même si les personnages et leur évolution priment. Et comme elle l'a dit, c'est avant tout un sujet universel.
Alors moi je dirais de la femme tunisienne plutôt, et, parce que le monde arabe est très vaste, et même la femme tunisienne, il n'y a pas une femme tunisienne, il y a plusieurs femmes qui vivent de manière très très différente aujourd'hui, entre enfin, les femmes qui vivent à la campagne et les femmes qui vivent en ville, il y a une différence... une grande différence, hein. il n'y a pas un sort uniforme et voilà, à toutes ces femmes-là. Il peut y avoir vraiment des différences énormes entre une femme et l'autre. Donc pour moi, d'abord, c'est l'histoire de personnages, et puis effectivement, ça peut s'appliquer, en tout cas, à la société tunisienne que je connais le mieux, et après, voilà.
Alors, il ne faut donc pas voir dans les secrets seulement un point de vue ou un jugement sur le sort des femmes en Tunisie. Ces femmes reclues et la nouvelle occupante, alors qu'un gouffre semble les séparer, vont finir par se rencontrer.
Et c'est cette rencontre qui m'intéresse et pas forcément de montrer qu'elles sont différentes. Au contraire, ce qui m'intéressait, c'est justement ces points de rencontre-là et les rapports qu'elles peuvent avoir, parce que je n'aimais pas forcément de jugement, en tout cas, sur les unes ou les autres. Mais la fille moderne trouve, en tout cas, chez ces femmes-là, quelque chose, une sorte de cocon maternel, etc. Parce que pour moi, le film aussi est sur la question de la maternité, qui est au cœur du film. Et aussi, cette femme-là permet à ces femmes-là de faire exploser, en tout cas, toutes ces frontières, cet enfermement dans lequel elles ont vécu jusque-là. Donc, le rapport entre un bord et l'autre est important à ce niveau-là. Et c'est ça qui m'intéresse, justement.
Alors, une des grandes séquences du film est donc cette rencontre entre les deux mondes, celui de ces femmes reclues et la modernité, avec une immense fête techno organisée dans sa vieille demeure, mini-jupe, alcool et flirt.
La société, aujourd'hui, elle vit, entre ces deux schémas-là. Et des fois, ça communique et souvent, ça ne communique pas. Donc voilà, moi ça m'intéressait, de montrer en tout cas deux bords. La géographie de lieu m'a permis aussi de faire un espace duo qui est l'espace de ces nouveaux venus, des jeunes, des maîtres aussi. Et l'espace du bas, celui de ces femmes-là qui étaient anciennes domestiques, etc. Donc cette situation sociale, elle est là, mais ça me permet de ne pas... l'évoquer d'une manière explicite, mais qui est là. Et ce qui m'intéresse aussi, là encore, c'est ce point de rencontre entre eux. Et c'est le personnage de Aïcha qui va créer le lien et la rupture, en tout cas. Elle est les deux, et c'est à travers elle que les choses, que ces deux mondes-là communiquent et se mettent un peu en contact.
D'ailleurs, elle traverse cette soirée de manière complètement fantomatique. Hein. Elle est là, complètement naïve, alors qu'elle est au vu de tous. On a l'impression que c'est le fantôme qui sort du sous-sol et qui va à la rencontre des autres, qui s'impose. On ne trouve pas normal qu'elle soit là, pas plus que ça. Et dès qu'elle revient de cette fête, donc dès qu'elle passe dans ce monde-là, il y a sa mère tout de suite qui regarde si elle est encore vierge.
Oui, parce que là, elle a commis une transgression énorme. Et pour la mère, le monde extérieur, les autres, les gens, la modernité, tout ça, c'est source de mal, donc d'agression, et donc de ces gens qui expriment leurs désirs librement, c'est aussi une menace, la mère, elle est dans un schéma de repli très qu'elle essaye de conserver comme elle peut. Et Aïcha, elle est dans une autre énergie. Et à ce moment-là, en fait, pour moi, c'est des éléments qui vont permettre aussi au personnage de Aïcha de vouloir se libérer. Parce que finalement, quelque part, l'agression sexuelle, je dirais, vient de la mère. Finalement, on la sent, c'est comme un viol, en fait. Et c'est comme si elle commettait ce qu'elle redoutait. Et cette position-là de repli peut créer des tensions très très fortes. Et pour moi, en tout cas, elle crée chez le personnage la volonté d'évoluer et de changer.
Voilà, donc c'était la réalisatrice Raja Amari, donc réalisatrice des Secrets, film qui sort aujourd'hui. Un film qui commence comme un thriller, qui aurait pu être un thriller, mais qui finalement n'en est pas. Même si ça se termine comme un drame, et qu'on ne le soupçonnerait pas forcément, mais voilà, le rythme est plutôt lent, et ce n'est absolument pas un film de genre. Mais c'est un film qui se laisse tout à fait regarder, et qui prend son temps. Et projeté au Diagonale. C'est les événements, tu voulais que oui, je te lance. C'est les événements, Martin, tout de suite.
Attends, les événements, un petit agenda sur les soirées de cette semaine, alors au Diagonale encore. Dès ce soir, vous pourrez aller assister à une séance de trance, un film présenté dans le cadre du Festival Arabesque. C'est un documentaire donc, sur un groupe de musiciens marocains qui a un peu révolutionné la musique marocaine. C'est ce soir à 20h05, c'est suivi d'un débat avec la productrice du film, Isa Guenini. Ensuite, demain, jeudi 20 à 20h05, dans le cadre de la Battle of the Year 2010, vous pourrez aller assister à un double programme, donc un film documentaire sur les relations entre l'islam et le rap, et puis un film de fiction, un film policier. Ça, c'est demain à 20h05. Ensuite, vendredi, vous pourrez aller assister à une avant-première donc dans le cadre de la quinzaine Amérique latine. Je disais le festival sud-américain, c'est la quinzaine Amérique latine 2010 qui continue donc encore cette semaine au Diagonale. Vous avez plusieurs films que vous pouvez aller voir. Dans ses yeux, La corne d'abondance, Estomago, dont tu as parlé, Paisito, etc. Et... tu allais dire quelque chose.
Oui, j'ai oublié de dire qu'Estomago, en fait, c'est un film qui était sorti en 2007, alors qu'il sort seulement en France, donc aujourd'hui, enfin, ou il y a une semaine pour nous, Montpelliérains. Mais voilà, c'est un vieux film finalement.
Voilà, donc vendredi 21 à 20h05, vous avez une avant-première de Diocèse. Donc c'est un film de fiction qui analyse un petit peu la classe supérieure péruvienne et les mécanismes sociaux qui la régissent. Donc voilà, ensuite samedi, le lendemain à 18h, vous avez une séance de Téhéran. Alors si vous l'avez raté, c'est film policier, film de genre iranien, donc un film assez étonnant. La séance de 18h samedi sera suivie d'un débat animé par Patrick Bedos, qui anime assez souvent des débats au Diagonale.
Et qui est venu une fois dans cette émission.
Également, que nous avons accueilli ici.
Nous parler d'un prophète.
Tout à fait. Donc voilà pour les événements de cette semaine au Diagonale.
Voilà. Et on en reste au Diagonale parce que je n'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose du côté des multiplex et du côté d'Utopia.
Alors peut-être après regarder sur Internet, voilà, sur le site de
cinémautopia.org. Bien voilà. Moi, je l'ai pas préparé du coup. Je voulais parler des Gérard, de cette remise des prix anti-César, voilà.
L'équivalent des Razzie Awards français.
Voilà.
Où on peut gagner un parpaing du meilleur mauvais acteur. Ils ont toujours des nominations,
ça dépend
des titres
catégories.
De nomination, voilà, de catégories qui sont assez. Assez rigolote. Voilà, c'est un faux festival.
Bah, écoute, si tu arrives à tenir l'antenne un petit moment.
Tu pourras nous sortir
te sortir un quiz.
Il y a eu dans les années précédentes des nominations du genre, voilà, l'acteur qui aurait mieux fait de rester un comique de stand-up plutôt que de faire du cinéma, avec Dubosc, Elise Moon et compagnie qui étaient nominés. Je sais plus, bien sûr, le Gérard du plus mauvais film qui avait été remporté, je sais plus trop. Mais bon, voilà, c'est une manifestation assez rigolote, donc l'équivalent français des Razzie Awards.
Qu'on retrouve du coup sur le site internet, mais comme... Alors les catégories, si. Allez, on joue vite fait parce que je crois qu'on a encore 2 minutes. Oui, c'est ça. Le Gérard de la grosse comédie qui fait tâche, comme on en tournait du temps des Charlots avec Paul Prébois et Alice Sapritch, sauf qu'on est en 2010, d'après toi, qui a gagné ?
Je ne sais pas.
Alors, c'est Vincent Lagaffe dans le Baltringue.
Ah, le Baltringue.
Alors, le Gérard de l'acteur, que c'est pas qu'on l'aime pas, mais on en a un peu marre de voir sa gueule partout.
Cadmérade.
Cadmérade, bravo, je ne sais même pas donner les... Le Gérard du film pas nul, mais pas bien, pas nul, hein, mais pas bien, mais pas nul pour autant, mais pas bien non plus, mais pas nul, ceci dit, pas bien, vous voyez. Donc là, sont nominés Gérard Depardieu, Jean-Pierre Darroussin, non mais là c'est un film. Donc L'autre Dumas, Erreur de la banque en votre faveur, Lucky Luke, Tellement proche, Gainsbourg, Pour un fils et Neuilly sa mère.
Alors là, L'autre Dumas peut-être.
C'est Gainsbourg en fait, Vie héroïque, donc avec Eric Elmosinino qui est venu chercher son parpaing, j'imagine.
Oui, ils sont assez durs les Gérard. C'était enfin moi j'avais bien accroché. De toute façon, c'est un bon film.
Ça n'a aucune valeur cette chose. Gérard du film avec des petits chiens ou des grosses chiennes. Et là, il y a Bambou de Didier Bourdon, Trésor de Claude Berry, Bel Ami de Claude Chabrol et Coco avant Chanel de Anne Fontaine.
Et c'est Coco avant Chanel.
C'est Coco avant Chanel effectivement. Bon, allez, on termine avec celui-ci, le Gérard de l'acteur qui a un nom de maladie. Là, ça devient plus drôle. Donc, il y avait Anna Mouglalis qui a été nominée, Sabine Azéma, Nils Arestrup, Denis Podalydès,